Vous êtes sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 6 mai 2021 des Apatrides Anonymes, votre rendez-vous bimensuel d'actualité nationale et internationale sur les questions d'immigration, de racisme et de paranoïa sécuritaire, mais aussi sur les luttes et les mobilisations qui entourent ces enjeux-là. Avec Simon, qui est à mes côtés en studio.
Salut Marie-Ève.
On va se tourner dans un instant vers les États-Unis avec lui, où l'actualité a été particulièrement foisonnante depuis deux semaines.
Ça revole de partout. Là.
Et un peu plus tard, on va traverser toujours avec Simon l'Atlantique pour parler de la situation qui prévaut au Yémen.
Ça revole un peu plus.
Un peu plus, oui. C'est un peu plus... Oui, ça revole avec un peu plus de sang, je pense. Et Mathieu, qui est à la régie...
Bonsoir, bonsoir.
Il va nous présenter un tour des actualités européennes et notre traditionnel agenda antiraciste et militant.
Exactement.
Avant de se lancer, on aimerait dédier cette émission à celui que plusieurs appelaient le sociologue ou le philosophe de la rue, Mario Paquet, qui est décédé la semaine dernière des suites d'un cancer. On l'a connu, Mario avait fait le choix de l'itinérance volontaire il y a longtemps. Vous l'avez déjà sans doute croisé aussi avec ses frères et sœurs canins, hein, avec qui il formait une famille choisie. Mathieu, tu voulais dire aussi un petit mot?
Ben oui, mais Mario était assez connu dans le milieu de l'itinérance, évidemment, parce qu'il y avait une certaine lutte politique dans ce qu'il faisait. Moi, je l'avais connu, c'est drôle, en 1993, quand je suis arrivé à l'UQAM. Il était à l'exécutif de l'AGECHAL, QUCAM, qui n'existe plus. Donc, il était dans le réseau étudiant, dans le mouvement étudiant, très impliqué. Et ensuite, évidemment, on peut se rappeler lui comme étant celui qui aurait eu un règlement juste pour lui, un règlement sous l'administration Tremblay qui interdisait plus que deux chiens par personne dans et au carré Berry et au carré Vigé. Donc, ça a été enlevé après, mais c'était vraiment spectaculaire.
Oui, il était de toutes les manifs aussi, pas mal.
Très
bref,
sympathique aussi, ouais.
Vraiment RIP et hommage à ce grand homme à la fois généreux, libre et d'une rare ouverture aux autres.
Oui, Mario.
Excusez, ça m'a un peu ému en fait de parler de Mario Paquet. On commence avec une revue de l'actualité états-unienne. Je vais me tourner d'abord avant de céder la parole à Simon. Je vais me tourner d'abord vers l'Oklahoma qui a adopté une loi qui protège, croyez-le ou non, les conducteurs. Je ris, mais c'est pas drôle. Croyez-le ou non, les conducteurs qui percutent des manifestants. On se rappelle qu'en juin 2020, le conducteur d'une camionnette qui transportait une remorque pour chevaux avait foncé dans une foule de manifestants là, qui étaient liés au mouvement Black Lives Matter sur une autoroute de Tulsa, qui est la deuxième ville la plus grosse de l'État. Plusieurs personnes avaient été blessées. Une d'entre elles est même restée paralysée. Et le conducteur, qui avait dit avoir accéléré parce qu'il avait peur pour la sécurité de sa famille, n'a jamais été inculpé. Eh bien, c'est cet épisode-là qui est à l'origine de la loi. Et donc, selon cette loi-là, et je cite, « Un conducteur de véhicule à moteur qui blesse ou tue involontairement un individu n'est pas criminellement ou civilement responsable de la blessure ou de la mort de la victime. S'il fuit une émeute, s'il a la croyance raisonnable que la fuite était nécessaire, pour le protéger de blessures graves ou de la mort. » La loi doit entrer en vigueur le 1er novembre prochain officiellement et va aussi faire du blocage de route un délit, un peu comme le règlement 500.1 ici. Cette loi-là, faut dire aussi, semble vraiment s'inscrire dans une stratégie plus large là, des républicains qui dispose de plus des trois quarts des sièges dans chacune des deux chambres de l'État. Les républicains y ont déposé une dizaine de projets de loi dans la foulée des manifestations qui ont suivi le meurtre policier de l'Afro-Américain George Floyd. Mais aussi plus largement, selon l'International Center for Non-Profit Law, une organisation qui est axée sur les impacts des lois sur la société civile, les républicains de 34 États ont présenté plus de 80 projets de loi qui restreignent d'une façon ou d'une autre le droit de manifester. Droit de manifester, faut-il le rappeler, qui est garanti par le premier amendement de la Constitution. Sur une note un petit peu plus encourageante, on a appris à la fin avril l'ouverture d'une enquête civile sur le service de police de Louisville, cette fois-ci au Kentucky, soit un peu plus d'un an après la mort policière, aussi meurtre policier de Breonna Taylor. C'est la deuxième fois qu'un service de police se trouve dans la mire du département fédéral de la justice, au lendemain du procès de l'ex-policier Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire pour avoir causé la mort de George Floyd. Eh bien, le procureur général avait annoncé une enquête similaire sur le département de la police de Minneapolis au Minnesota. Donc, l'enquête sur la police de Louisville va porter, qui porte sur les problèmes, là, les modèles ou les pratiques de la police de Louisville a pour but d'établir si elle utilise une force déraisonnable, y compris au cours des manifestations, mais aussi si elle procède à des arrestations, des fouilles, des saisies inconstitutionnelles, puis si le département exécute illégalement des mandats de perquisition dans des résidences privées. La formation des agents d'éventuels comportements discriminatoires puis l'impact des tactiques du service sur les différentes communautés culturelles ainsi que le système actuellement en place pour tenir les officiers responsables d'actes répréhensibles vont également être examinés. Donc, c'est quand même une enquête assez exhaustive.
C'est assez large quand même. J'aimerais juste dire c'est le même juge fédéral qui a ordonné les deux enquêtes à pour Minneapolis et Louisville. J'imagine qu'ils vont essayer de le tasser bientôt. mais je trouvais que stratégiquement, c'était bien parce que tu vas avoir probablement des procureurs différents, des enquêteurs différents qui vont arriver aux conclusions semblables. Donc, il va sûrement avoir un genre de jurisprudence qui pourra peut-être s'étendre
à d'autres États.
C'est ça.
Effectivement. Donc, toi, Simon, tu vas nous parler surtout des enjeux migratoires aux États-Unis, c'est ça?
On va aller plus vers la frontière États-Unis-Mexique. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'actions dans ce coin-là. Donc, un peu aussi... les politiques fédérales d'immigration qui essaient de s'adapter tant bien que mal à la fois l'électorat plus conservateur et l'autre qui est plus progressiste. Ça, c'est un genre de jeu d'équilibre toujours un peu compliqué. Donc, quelques chiffres pour commencer. Pour le mois de mars seulement, on a atteint 172 000 arrestations à la frontière, donc une augmentation de 70 % par rapport à février. Il y a eu certains assouplissements législatifs par Biden pour arrimer les politiques américaines au droit international, comme par exemple ne plus refouler les mineurs non accompagnés.
Ça faisait longtemps qu'on en parlait de ça. C'est
un truc de base en droit quand même. Leur nombre a doublé entre février et mars pour atteindre 19 000. On les envoie toujours dans des hébergements temporaires qui, évidemment, dépassent déjà leur capacité d'accueil. C'est souvent les mêmes endroits où, tu sais, qui faisaient l'objet de critiques sous Trump, là, qui n'ont pas été... Les pratiques n'ont pas nécessairement été améliorées. Le confort non plus, la dignité des enfants n'est pas nécessairement améliorée. Peut-être plus tard. En même temps, sous prétexte de COVID, on a maintenu les règles temporaires qui sont contraires au droit international en continuant de refouler sommairement. C'est-à-dire d'empêcher d'entrer les migrants, migrantes, sans que les demandes d'asile soient évaluées.
Traité,
c'est ça. Normalement, il faut... quelqu'un arrive à ta frontière, tu dois analyser la demande. Ça inclut les familles, donc les enfants accompagnés de leurs parents peuvent toujours être refoulés. Le chiffre qui tue en mars, 104 000 refoulements sommaires. Ça, c'est en plus des 172
000... Toutes catégories incluses, là. Pas que les enfants, j'imagine, c'est en général, là.
Ben, les enfants non accompagnés, c'est adultes et enfants
c'est
inclus.
Ça.
Enfants non accompagnés sont mis dans des centres de rétention, disons ça pour être poli, et les familles qui arrivent à la frontière de manière irrégulière sont
refoulées.
Exactement.
Okay.
Le Mexique, de son côté, fait un peu la même chose à sa frontière plus au sud avec le Guatemala, donc toute personne migrante qui arrive, elle est interceptée ou refoulée. Donc, on revient à la frontière Mexique-États-Unis. Donc, en raison de l'afflux actuel, il y a des camps de fortune qui grossissent assez rapidement à la frontière, du côté mexicain, évidemment, puisque les gens peuvent pas entrer. Phénomène qui existait déjà, mais qui prend beaucoup plus d'ampleur actuellement. Là, on parle de refoulement et de frontières fermées, mais faut pas oublier les expulsions, notamment des Haïtiens. Il y en aurait eu plus dans les quelques mois de pouvoir de Biden, donc plus de 1 000 Haïtiens expulsés que pendant toute l'année 2020 sous Trump.
Ah, mon Dieu, c'est inquiétant.
C'est inquiétant, puis on ne sait pas si c'est une tendance qui commence. C'est inquiétant, comme tu dis. Dans les camps de migrants qui poussent à la frontière américaine, il y aurait de plus en plus une forte présence haïtienne, donc à la fois des personnes expulsées des États-Unis et des migrants qui arrivent d'Haïti via différents itinéraires. Donc on a un beau mélange latino-caribéen qui s'entasse devant la frontière américaine. Biden, jusqu'à maintenant, maintenait le seuil annuel de réfugiés fixé par Trump à 15 000 par année. C'est ridiculement bas pour un pays de la grandeur des États-Unis. Et en tout, c'est moins que le Canada, pour une population 10 fois plus élevée.
Ouais.
On doit bientôt annoncer une hausse vers les 60 000 réfugiés acceptés annuellement. Donc, ce qui demeure très, très bas. Juste mentionner, les réfugiés, les migrants qui arrivent à la frontière pour demander l'asile, c'est pas le même programme que le programme pour les réfugiés. Les réfugiés, c'est les demandes qui sont faites à partir du pays d'origine. Donc, qui est un processus administratif quand même long. Et même si les gens sont dans un contexte difficile, on leur demande de patienter chez eux. Donc, des signaux un peu contradictoires de l'administration Biden, dont les discours se voulaient beaucoup plus bienveillants, plus accueillants, mais d'un point de vue opérationnel, sous prétexte COVID surtout, ben c'est pas mal pareil qu'avant. Rien n'a vraiment changé. Sinon, Washington a un plan de 4 milliards de dollars d'investissement dont les détails restent à préciser pour, on en a déjà parlé, pour améliorer les conditions de vie d'où proviennent les gens. Guatemala, Salvador, Honduras, c'est des sommes astronomiques, 4 milliards sur je sais pas quelle période par contre, mais il y a de tout temps, il y a eu des investissements comme ça pour pour se dénoyer un peu. On veut limiter
Mais qui vont être injectés dans l'économie de ces pays, de ces trois pays-là, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça. Puis malgré qu'il y a toujours, mettons, eu 1 milliard par année, par exemple, on n'a pas vu beaucoup de
changements.
Puis dire que, tu sais, c'est pas une forme d'investissement qui est vraiment par résultat ou qui a du suivi de son injecte. Et souvent, on donne directement aux régimes en place qui sont...
Corrompus?
Parfois légèrement corrompus, c'est ça. Donc, il suffit pas d'injecter des milliards, puis par magie, tu sais, tout va changer comme ça. Sinon, phénomène qu'on observe de plus en plus, on vous en reparlera sûrement, c'est des migrants entassés dans des embarcations surpeuplées en mer, entre le Mexique et les États-Unis, donc entre la Baja California et la Californie états-unienne. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup entre Cuba et la Floride depuis des décennies, mais c'est vraiment nouveau à cet endroit-là.
Oui, c'est ça.
À ce que je cherche, ça n'a pas été encore observé dans le golfe du Mexique, entre le Mexique et le Texas, donc de l'autre côté sur la côte est du Mexique. Mais entre les deux Californies, donc mexicaine et américaine, on sait qu'il y a déjà des réseaux de passeurs qui sont installés. C'est un peu le même mode d'opération qu'en Méditerranée ou sur la Manche. On exploite la misère en siphonnant des sommes d'argent très importantes et en surpeuplant des petites embarcations et en soufflant pas mal des mesures de sécurité de base. On déplore déjà des morts. Par exemple, cette semaine, une embarcation surpeuplée a été carrément pulvérisée sur des falaises près de San Diego. Résultat, sur une trentaine de migrants, 27 blessés et 3 morts. Ça, c'était il y a quelques jours. Sinon, cette semaine, on a annoncé qu'on allait réunir 4 enfants séparés de leur famille. Le fameux scandale qui avait eu cours sous Trump, là, il y avait, on estimait à 5500 enfants qui avaient été séparés. Ben, à partir de la semaine prochaine, il en restera 5496. Donc, à ce rythme-là, ça prendrait quelques années, j'imagine, pour... Bref, on vous reparlera des États-Unis sûrement dans 2 semaines, parce que, comme tu dis, l'actualité est foisonnante. Hein.
Oui, et puis ben moi, mais merci beaucoup, Simon, pour ce tour d'horizon des enjeux migratoires chez nos voisins du Sud, avec qui, d'ailleurs, nous aussi, hein, on partage une frontière. Nouvelle, d'ailleurs, là-dessus, qu'on n'a pas eu le temps de traiter à la dernière émission. À la mi-avril, la Cour d'appel fédérale a décidé de maintenir l'entente des tiers pays sûrs, qui renverse, donc décision qui renverse du même coup le jugement précédent de la Cour fédérale qui avait conclu que l'entente était inconstitutionnelle. Dans sa décision rendue en juillet 2020, la Cour fédérale avait invalidé l'entente pour des motifs principalement de droit individuel, mais elle avait accordé au gouvernement un sursis de 6 mois, hein, jusqu'à mi-janvier. Et donc là, la Cour fédérale avait ensuite prolongé ce délai-là jusqu'à son propre jugement, ce qui a été rendu. Donc là, officiellement, L'entente des tiers pays sûrs est maintenue. La Cour fédérale d'appel fédéral justifie sa décision d'une drôle de façon. Je trouve ça un peu nébuleux. C'est que, selon elle, les effets néfastes, ou en tout cas soi-disant, elle dit pas soi-disant, mais quasiment, néfastes que subissent les personnes renvoyées aux États-Unis peuvent pas être imputés au régime légal dans son ensemble. Ils seraient plutôt imputables à des enjeux comme administratifs, dans le fond, c'est-à-dire aux examens prévus puis aux actes administratifs, comme je dis, qui en découlent, ce qui relève, selon elle, de l'anecdotique et considère donc qu'on peut pas rendre inconstitutionnel une loi sur la base de faits anecdotiques. Elle considère que le dossier est incomplet. Elle dit que il aurait fallu être en mesure de vérifier de quelle manière le gouvernement canadien a examiné la situation de façon régulière pour maintenir la désignation de pays sûrs pour les États-Unis, ce que le dossier, selon la Cour, permet pas de faire. Dans le jugement, je vous dis, en réponse à la Cour fédérale, qui, elle, avait jugé que le traitement des personnes renvoyées aux États-Unis choque la conscience, le tribunal supérieur, lui, considère que le dossier comporte certes des éléments relatant des traitements inférieurs aux normes, mais rien qui ne choque particulièrement la conscience.
Ben non.
Reste à voir si la cause va se rendre jusqu'en Cour suprême. Là, ça va dépendre évidemment des groupes qui ont mené cette cause-là, dont le Conseil canadien des réfugiés et Amnesty International. Il y en a d'autres aussi, mais on verra bien. Là, mais...
Et des certains réfugiés eux-mêmes aussi.
Oui, ouais. Aussi. Ouais. Donc, on s'en va en musique avec une suggestion de Simon. C'est la pièce Peckish de la formation post-punk entièrement féminine de Bristol en Angleterre, Slag Heap.
The hot apple pie out of the oven. My impatient hands made the flaked pastry fall into my hand. Collarbones like pastry crust, reaching out of your tin casing. I could just nibble on that buttery crumbly biscuit base, that buttery crumbly biscuit base, that buttery crumbly biscuit base. Ooh, I'm a little bit peckish. My senses, food and fidgeting, boring, doing the same thing, doing the same thing,
doing the same thing,
doing that every day. Thing. We'll be right back.
C'était la formation Slag Heap avec la pièce Peckish. Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Toujours Marie-Ève aussi au micro, en compagnie maintenant de Mathieu.
Rebonjour Marie-Ève.
Qui a décidé de s'approprier ma chasse gardée, l'Europe.
Ah oui, madame.
Mais avant de lui céder la parole.
Faut que tu parles de l'Europe.
Ouais. Oui. Okay. Une nouvelle qui nous a fait vraiment plaisir aux apatrides. Écoutez, l'infâme ex-ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, sera jugé par le tribunal de Palerme en Sicile pour avoir bloqué des personnes migrantes en mer. Enfin, on peut dire, dans cette affaire qui remonte à août 2019 et qui concerne le navire de l'ONG Open Arms, le chef du parti d'extrême droite de la Ligue est accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir pour avoir interdit le débarquement de 147 migrants secourus en mer par le bateau humanitaire. La cause va être entendue à partir du 15 septembre prochain, et Salvini pourrait quand même écoper de jusqu'à 15 ans de prison. Bon, on sait très bien que ça se rendra probablement pas là.
Non, pas vraiment.
Matteo Salvini avait à l'époque, là, juste pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé, avait donc refusé pendant 6 jours d'accorder un port sûr au navire de l'ONG espagnole qui avait jeté l'ancre au large de l'île italienne de Lampedusa, alors que les conditions à bord se dégradaient. Il y a même plusieurs migrants désespérés qui s'étaient jetés à l'eau pour tenter de rejoindre Lampedusa avant d'être amenés à bord par les secouristes de l'Open Arms. Fidèle à lui-même, Matteo Salvini a réagi à l'annonce du procès en se déclarant fier de ses actes passés et, je cite, « La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen. Je vais être jugé pour cela, pour avoir défendu mon pays. Je m'y rendrai la tête haute. » Et à sa sortie de l'audience du tribunal de l'hôpital, ouais, parce que des fois...
Quel homme!
Il a même déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une décision plus politique que judiciaire, tu sais.
Oui, il est toujours élu, hein, lui.
Ben oui. Mm-hmm. Salvini est aussi impliqué, il faut le dire, dans une autre affaire similaire, qui est elle aussi actuellement jugée à Catane, en Sicile également. Il est mis en cause pour avoir encore une fois bloqué en mer une centaine de migrants sauvés par le navire Gregoretti des gardes-côtes italiens. C'était encore une fois durant l'été 2019 aussi. Le parquet a demandé l'abandon des poursuites dans cette affaire-là, sur laquelle le tribunal de Catane là, doit se prononcer le 14 mai, donc c'est très bientôt. Mm-hmm. On vous informera juste probablement des suites de ça. Et enfin, rappelons que lorsqu'il était au pouvoir, l'ancien ministre de l'Intérieur avait fait de la répression des migrants sa priorité. Il avait entre autres proclamé la politique des ports fermés, avait mis fin au permis de séjour de deux ans pour protection humanitaire dont bénéficiait 25% des exilés en 2017.
Toute une œuvre,
oui. Alors, Mathieu.
Il est très jeune, il va être encore là longtemps.
Oui, je pense qu'on va l'avoir des pattes un petit bout.
C'est le Simon Jolin Barrette européen.
On peut dire ça. Il s'appelle Mathieu.
Alors, Mathieu, justement, tu nous commences ta tournée européenne où?
Et je commence malheureusement en plein milieu de la mer Méditerranée. Bon. C'est un peu inévitable parce que beaucoup de gens vivent des drames-là en se rendant vers l'Europe. Donc, importante tragédie récemment qui a fait beaucoup réagir en Europe. Ça s'est passé donc le 23 avril dernier. Ben, à peu près autour du 23 avril, nouveau drame en Méditerranée. C'est SOS Méditerranée qui a repéré au large de la Libye une dizaine de corps en premier, près d'un bateau pneumatique retourné qui avait été signalé en détresse avec 130 personnes à bord. Donc, aucun survivant n'a été retrouvé par le Ocean Viking, ainsi que 3 navires marchands qui ont participé aux recherches. Il avait été prévenu par Alarm Phone, SOS Méditerranée, de la présence de 3 embarcations dans les eaux internationales au large de la Libye. Donc, il en manque toujours 2 qu'on n'a pas retrouvées aussi. C'est ça qu'il faut calculer. Et une semaine avant, l'OIM avait annoncé que les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant, avaient été repêchés après le naufrage de leur embarcation de fortune au large des côtes tunisiennes. Donc, ça fait en 2 semaines à peu près plus de... Avec ceux qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvé, sûrement plus de 200-300 personnes. Et l'équipage de l'Ocean Viking précise avoir également cherché sans succès une embarcation en bois avec environ 40 personnes à son bord. Donc, on calcule officiellement depuis le 1er janvier 453 migrants morts en Méditerranée, mais c'est sûrement plus que ça. Les réactions, ben écoutez, l'indignation des uns, le silence des autres. Qui a réagi le premier le plus fortement?
le pape François. Mais quand même, il a dit « Quelle honte! Ce sont des vies humaines qui ont pendant deux journées entières vainement imploré de l'aide, une aide qui n'est pas arrivée. » Parce qu'on sait très bien que les Libyens et les Européens ont été prévenus par la ligne Alarm Phone et qui n'ont pas envoyé d'aide. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un avion plus tard, puis c'est là qu'on a vu le canot renversé. Oui. L'Osservatore Romano, qui est le journal du Vatican, a titré sur la tragédie « Abandonné et enterré en mer » quand même. C'est assez clair. Donc, la seule action entreprise par Frontex, c'est 7 heures après la première alerte, c'est d'envoyer un avion qui a repéré trop tard les restants du bateau. Et les autorités européennes avaient désigné les autorités libyennes comme compétentes pour coordonner cette opération de recherche qui était dans les eaux internationales en plus.
Ben oui, Frontex et les autorités libyennes, méchant mélange.
Oui, et du côté de l'Union, les réactions ont à peine émergé. Beaucoup de commentateurs ont d'ailleurs fustigé un silence assourdissant. Puis juste une phrase d'un témoignage d'Alessandro qui était sur l'Ocean Viking qui ont trouvé les 10 corps et le canot renversé.
Faisait partie de l'équipage?
L'équipage, oui, il a fait un texte. Je lis juste une phrase. Si un avion s'était écrasé dans la même zone, les marines de la moitié de l'Europe auraient été là, mais ce n'était que des migrants destinés au cimetière méditerranéen pour lequel il est inutile de courir et de fait, nous sommes restés seuls à essayer de les sauver. Mmh. Donc, voilà. Pendant ce temps, dans les bureaux feutrés de Bruxelles à l'Union européenne, la Commission a présenté une stratégie qui vise à accroître les retours volontaires vers les pays d'origine des migrants n'ayant pas été autorisés à rester dans l'Union. Ces mesures entrent en vigueur dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l'asile dont on a parlé, qui date de 2015. Pas 2015, mais qui fait suite à la crise migratoire de 2015. Ces retours dits volontaires qui s'accompagnent d'une aide financière sont toujours la meilleure option, a déclaré la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, estimant qu'il était plus efficace et moins coûteux que les retours forcés. Parce que les retours forcés, Marie-Ève, qui implique une détention, une escorte, ça coûte en moyenne 3 400 € par personne et un retour volontaire, 560 €. Ils ont tout calculé, là.
Donc, c'est ça le montant qu'ils donnent aux personnes pour un retour volontaire, un petit 560 €.
Ben, c'est le billet d'avion, j'imagine.
C'est sous forme de perdiennes.
Qu'est-ce que ça coûte? Non, qu'est-ce que ça coûte? Pas qu'est-ce qu'ils donnent. Qu'est-ce que ça coûte? Non. Quand je vous parlais tantôt d'une aide financière, ça, c'est pour les pays qui vont avoir à le faire, mais j'y viens dans deux secondes. Et l'Agence européenne de garde frontière et de garde côte, Frontex, est appelé à jouer un rôle clé dans ces nouvelles mesures. Ah. Il est prévu que Frontex fournisse une aide opérationnelle aux États membres à tous les stades du processus de retour volontaire et de réintégration. On prévoit aussi la nomination d'un coordonnateur européen pour les retours chargé de fournir une assistance technique aux pays de l'UE. Et l'Union européenne veut aussi renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit des migrants. On en a parlé déjà, hein? Madame Johansson est prête à faire dès cet été des propositions pour des restrictions en matière de visa à l'encontre des pays qui ne coopèrent pas pour reprendre leurs ressortissants en situation régulière. Et je la cite, « Mais si nous arrivons à faire suffisamment de progrès avec des pays qui coopèrent bien, nous sommes prêts aussi à faire des propositions pour des politiques de visa plus généreuses pour ceux qui coopèrent. »
Fait que c'est comme la politique
c'est quand on parle d'aide financière,
la carotte puis du bâton,
exactement. Ben, les bons élèves, les mauvais élèves, évidemment.
C'est ça, mais c'est tellement pas subtil.
Fait que ça a été annoncé, tu vois, le 27 avril, c'est tout récent. Donc ça va être en vigueur sûrement dans le courant de l'été. Donc voilà pour ma première partie, Marie-Ève.
De ton bloc, on va écouter quelques notes de musique de Piff Paff Hangover. Alors, Mathieu, de la mer Méditerranée et des salons feutrés de Bruxelles, on s'en va maintenant.
On s'en va dans des centres de rétention un peu glauques en Belgique. Je vais vous parler de la Belgique pour le deuxième bloc. Je vais commencer. Il y a deux sujets. Je commence par le premier. Fait d'asile, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique a annoncé qu'elle allait enquêter sur le centre pour demandeurs d'asile de Jalhay, près de Liège, en Wallonie. Des témoignages ont fait état de vétusté des locaux, de menaces ou encore de négligence dans l'accès aux soins de santé. Le collectif Migration Libre, selon eux, les conditions de vie des quelques 250 demandeurs d'asile vivant dans ces lieux se sont détériorées après le départ de la Croix-Rouge en octobre et la reprise du site par une société privée, Svatsa. Donc, depuis 2015, l'État peut faire appel à des entreprises privées pour la gestion des centres de demandeurs d'asile. 6 centres sur 81 sont privatisés pour l'instant. Svatsa est une chaîne hôtelière. Son action n'est pas désintéressée et rentre dans une logique de bénéfice selon le collectif Migration Libre. L'une des premières mesures prises par la société a été de réduire le nombre de travailleurs sociaux de 30 sous la Croix-Rouge à 12 depuis qu'ils sont là. Vous allez voir, les bonnes décisions s'enchaînent. À cela s'ajoute la réduction du budget dédié à la nourriture. On est passé de 5,2 euros par jour à la moitié.
Hein? Oh!
Oui. Il n'y a qu'un seul médecin qui vient deux fois par semaine, compte un chaque jour à l'époque de la Croix-Rouge. Les résidents ont eu leur intervention à l'hôpital annulée car le centre n'a pas rempli les bons papiers pour les rendez-vous. Écoute, ça a pas de bon sens, là, ça continue comme ça. On parle de vétusté des lieux, vétusté des chalets, c'est comme c'est un ancien camping. Vétusté des chalets dans lesquels sont hébergés les demandeurs d'asile. Une dizaine d'entre eux de ces chalets, jusque-là réservés au stockage de matériel à l'époque de la Croix-Rouge, ont été réouverts pour y loger des ressortissants afghans.
Au stockage d'Afghans.
Oui, ben voilà. Ces locaux rongés par l'humidité ne disposent ni de sanitaire, ni de raccordement d'eau et encore moins de chauffage. La directrice du centre aurait menacé les demandeurs d'asile qui se plaignaient de leurs conditions d'être transférés dans un centre plus mauvais, entre guillemets, mais aussi d'abîmer leur processus de demande d'asile. De graves accusations, bon, que tout le monde dénonce depuis un bout, ça sort depuis quelques mois, des personnalités qui tirent la sonnette d'alarme, même le bourgmestre de la commune, là, le maire, avait alerté la police en décembre, il parlait de climat de terreur. Et là, finalement, Migration Libre se pose la question, on attend de voir les résultats de l'enquête, mais pourquoi continuer de privatiser un secteur qui est par essence non marchand? Pourquoi les négociations entre les acteurs privés et l'agence fait d'asile sont-elles si opaques? Et je gardais la meilleure pour la fin pour ce bout-là, Marie-Ève. Le propriétaire de Svatsa, et non pas de Svatika, les autres que Dominique.
Non. Ben, moi, je pensais à ça depuis le début, là, Marc.
Non, mais écoutez, j'ai pas l'esprit tordu comme ça.
Donc, Svatsa n'est nul autre que Dominique Nédé, candidat d'extrême droite lors des élections fédérales de 2007.
Ah. Oh my God, avec tout et dans tout.
C'est la totale, vraiment, là, c'est n'importe quoi. Donc, ça, c'est pour une partie de mon autre partie, c'est la Belgique. C'est une action, moi, c'est plus intéressant. L'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage à Bruxelles est occupée par près de 300 sans-papiers depuis le 28 janvier dernier, ils sont toujours là. En 20 ans, ce lieu a connu l'équivalent de 6 années d'occupation, car le prêtre, Daniel Allier, de cette église du centre-ville de Bruxelles, est un fervent défenseur des sans-statuts, des sans-papiers. Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs initiatives, manifestations, campagnes de com en faveur de la régularisation des sans-papiers ont été mises en place par plusieurs collectifs, mais aucune réponse du gouvernement positive pour l'instant. Ces 300-là sont soutenus par 2000 autres, qui sont un peu autour de l'église dans le centre de Bruxelles, autour des universités entre autres, qui espèrent tous décrocher un titre de séjour. Ils sont pour la plupart originaires du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Népal et de la Thaïlande. Et la plupart vivent en Belgique depuis 5, 10, voire 15 ans. Ils se sont regroupés autour de l'Union des sans-papiers pour la régularisation, une organisation créée au début de l'occupation fin janvier. Les associations estiment au moins 100 000 le nombre de sans-papiers vivant en Belgique. Quelqu'un, un militant, dit qu'il représente l'équivalent d'une 20e commune de Bruxelles, finalement. On pourrait dire ça comme ça. En Belgique, on entend moins souvent parler, c'est la loi de 1980 relative aux droits des étrangers qui régit les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Ce document est délivré pour des raisons exceptionnelles, entre guillemets, si la personne réussit à démontrer qu'elle ne peut retourner dans son pays pour refaire sa demande ou pour des raisons médicales, ne peut pas se faire soigner dans son pays. Donc, la loi belge considère qu'un sans-papier entré illégalement en Belgique doit retourner dans son pays pour y déposer une demande de titre. Et là, je cite un des sans-papiers, c'est assez drôle. Ici, il ne faut pas rentrer par la fenêtre, mais par la porte. Sinon, votre présence sera toujours considérée comme illégale et vous n'avez aucun droit. En outre, le texte de loi est soumis au pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration et donc, par conséquent, est opaque. Il n'y a aucune transparence, on ne connaît pas les critères qui permettent une régularisation, et d'un secrétaire d'État à l'autre, les consignes peuvent varier, souligne aussi les collectifs. Les personnes qui obtiennent une régularisation sont principalement des familles dont les enfants sont nés en Belgique, soit scolarisés dans le pays. En 2019, 4100 demandes ont été déposées. Je trouve que c'est pas beaucoup.
Non.
Et 1600 ont été acceptées, donc le quart à peu près. Les occupants de l'église espèrent aboutir à un changement de la loi et à une campagne massive de régularisation comme celle de 1999 et de 2009. Mais le nouveau secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Madi, compare l'occupation à du chantage, évidemment. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne consentirait pas à une régularisation collective. Il s'est pour la première fois entretenu personnellement avec des représentants des occupants le 21 avril. Ils sont là depuis fin janvier. Il a déclaré... C'est ça, puis là, je le cite, ça n'a pas de bon sens. « Certains militants instrumentalisent les sans-papiers. Cela me frustre. En leur faisant scander des messages haineux et en cherchant la confrontation, ils montrent déjà clairement qu'ils ne cherchent pas de solution. » Il a promis d'augmenter les effectifs de fonctionnaires afin que les gens obtiennent une réponse plus rapidement et sachent où se situera leur avenir. Donc,
ben oui,
être refusé plus rapidement.
Ça fait 15 ans qu'ils sont là.
Oui,
tu sais.
Oui, tout à fait. Puis se faire refuser plus rapidement, on peut lire entre les lignes. Et il a fini par dire, le fameux secrétaire d'État à l'asile.
C'est quoi son nom déjà?
En plus, il
y a Dominique.
Sami Madi. Ma porte, c'est un nouveau. Ma porte sera toujours ouverte au dialogue et chaque dossier continuera à être évalué individuellement. Fait que là, ça, il y a cette occupation.
Sa porte, mais pas sa fenêtre, hein, c'est ça.
C'est ça. Exactement. Donc, l'occupation dure depuis le mois de janvier. Il y en a d'autres aussi en Belgique. Et puis, la question du centre de rétention dont on parlait, on voit vraiment le choix des migrants, là, occuper une église ou aller dans un centre où ils se font maltraiter.
Ben
puis,
non, mais c'est ça. Là.
Fait que la Belgique, on n'en parle pas souvent, mais...
Non, c'est ça. Je suis contente que... Merci, Mathieu. Parce que ça faisait... Effectivement, ça tombe souvent sous le radar, ça passe sous le radar souvent, la Belgique, puis on connaît pas beaucoup les lois relatives à l'immigration dans ce pays-là, ni la situation des migrants dans ce pays-là. Écoute, on voit que tu maîtrises aussi bien que moi les enjeux migratoires européens.
Ah, je travaille fort.
Il y a de la compétition, hein? Mais moi, je serais curieux de savoir les slogans haineux de ceux qui occupaient l'Église. C'est genre un statut pour tous et toutes.
Ouais, ou peut-être l'État est contre les migrants, ou tu sais, des...
Hey, je te dis que c'est violent.
Ouais, hein? Je sais. Écoute, j'aurais dû amener des enregistrements audio pour te le montrer. Ça.
Prochaine fois.
Pour ma part, je reviens en sol canadien pour vous parler d'actualité policière. D'abord à Montréal, où, on l'a vu, la fraternité des policiers tente depuis quelques semaines de vraiment passer pour une victime. À la mi-avril, là, c'était la proposition de Projet Montréal de créer des patrouilles policières non armées qui a soulevé l'inquiétude du syndicat des agents du CSPVM. La fraternité avait réagit en disant que la proposition laisse craindre que des, je cite, « idéologues provoquent la dégradation de la sécurité publique dans la métropole ». Rien de moins, c'est dangereux des idéologues. Dans le même temps, ben là, Radio-Canada a publié un reportage sur le soi-disant désengagement policier, c'est-à-dire le depolicing, là, où des policiers viennent dire qu'ils peuvent plus intervenir dans certaines situations possiblement criminelles pour éviter d'être filmés, puis ensuite livrés au soi-disant tribunal populaire sur les réseaux sociaux. Cette vision-là est évidemment contesté par plusieurs groupes là qu'ils accusent de nourrir un mythe dans le fond pour justifier encore plus d'interventions. Mais qu'à cela ne tienne, l'École nationale de la police du Québec a demandé une étude pour mesurer l'ampleur du phénomène du désengagement policier dans la province. Puis pas plus tard qu'hier, ben là, le président de la fraternité, Yves Francoeur, a dénoncé la nomination d'Alain Babineau à titre de conseiller
idéologue
pour le SPVM, pas juste un idéologue, lui c'est un idéologue militant de longue date. Il l'a qualifié de militant de longue date contre la police. Sauf que Alain Babineau, là, il a travaillé pour la Gendarmerie royale du Canada pendant 28 ans. Et là, aujourd'hui, ben, il travaille comme conseiller pour les questions de profilage et de discrimination raciale pour le Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR. Et à propos de cet organisme-là, Francoeur, ben, lui, considère que sa spécialité, c'est d'accuser les policiers et les policiers et policières de profilage racial dans les médias. Il a même dit que la fraternité respecte le vécu et le droit de parole comme militant du nouveau conseiller, mais déplore fortement la rapidité avec laquelle il saute toujours, et je souligne, prématurément à la même conclusion. Écoutez, je sais pas sur quelle planète vit Yves Francoeur, là.
Dans un Dunkin' Donut.
mais quand on... Pourtant, il y a des journaux dans les Dunkin' Donuts. Quand on suit minimalement l'actualité, les faits parlent d'eux-mêmes, là. Il se passe même pas une semaine sans qu'il y ait une intervention musclée, soit de la part de la police ou autres services de sécurité contre des personnes racisées. On a juste à penser à celle des inspecteurs de la STM à la station de métro Jean-Talon il y a 2 semaines, dont des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, puis là, qui fait l'objet d'une enquête interne. Puis ailleurs, pour rester dans les transports collectifs, ailleurs, 2 chercheurs de l'Université de Toronto ont examiné plus de 121 000 rapports d'événements de contrôleurs des titres de transport et d'agents de police de la Commission de transport de Toronto, la CTT, qui a été donc rapport qui a été déposé, pas rapport, mais les Ouais, les rapports d'événements, c'est ça. L'analyse porte ouais. de 2008 à 2019, c'est ça. Eh bien, quelle surprise! L'étude révèle que les Autochtones, toutes proportions gardées, hein, sont près de 4 fois plus susceptibles d'être interpellés par un agent de la CTT. Les personnes noires, elles, sont 2 fois plus. 19,2% tous les incidents concernant des personnes noires, que ce soit dans le cas d'un avertissement formel ou d'un contrat d'infraction, alors que ces dernières ne représentent qu'environ 9% de la population torontoise. Les usagers blancs du transport en commun, eux, ben en revanche, sont plus susceptibles d'être excusés ou d'être avertis verbalement. C'est ce que note le rapport. Et si on revient au sujet, si on revient à l'intervention dans le métro de Montréal, la STM, elle, comment elle a réagi, elle a souligné que les conclusions préliminaires de l'enquête, là, je cite, donc les conclusions préliminaires de l'enquête interne, dont une étude des diverses bandes vidéo disponibles, indiquent que l'intervention des inspecteurs a suivi les règles de l'emploi de la force enseignées à l'École nationale de police du Québec. Mmh. Tout est dans tout, mais ce que cette déclaration-là démontre, c'est que c'est la culture policière qui est problématique et c'est à la racine du problème qu'il faut agir. C'est pas en tentant de sauver les apparences auprès de la population, par exemple en lançant des petits projets pilotes là, comme celui du port de caméras corporelles par un groupe de 10 policiers de la SQ dans la région de Rimouski.
Donc, il y a beaucoup d'Autochtones et de Noirs interpellés dans la région de Rimouski.
Ouais. Oui, beaucoup.
Donc, c'est idéologique, hein, le rapport des profs d'Université de Toronto aussi.
Ce sont des idéologues militants.
C'est des idéologues. Puis c'est ouais. sûr que les policiers viennent de se rendre compte que les gens ont des téléphones pour filmer. Hein. Ouais. Je pense qu'ils n'aiment pas bien ça.
Alors que ça fait des entrées. Bref.
C'est des victimes. Ah oui.
Sur ce, on va aller... excusez, ça, je fais une petite...
Ouais.
Militante.
Un petit éditorial, je suis une idéologue enragée.
Je t'appuyais.
Sur ce, on s'en va en musique avec Jupiter et Okwes, groupe de Kinshasa en République démocratique du Congo. On écoute la pièce « Mieux que ça » qui est tirée de l'album « Nakozonga » qui vient de paraître et qui figure au palmarès de choc.ca.
On peut
fermer que ça. On peut fermer que ça.
Oh,
Alors, vous êtes toujours sur lesondeschoc.ca. Vous écoutez Les Apatrides Anonymes. On venait d'entendre Jupiter et Hawkwest avec la pièce Mieux que ça. Et on est en studio maintenant avec Simon qui nous a préparé un dossier sur le Yémen.
Oui, Yémen, dont on entend quand même beaucoup parler, mais oui, depuis des années, mais je trouvais que c'était peut-être intéressant d'avoir un bilan, un résumé, parce que à chaque fois, on a des petites nouvelles fragmentaires, puis comme c'est loin de nous. Fait que bref, je vais vous situer le Yémen. D'abord, c'est un pays de taille moyenne dans la péninsule arabique, pays qui ferme la mer Rouge en face de l'Érythrée et de la Somalie. Pays qui partage ses frontières terrestres avec l'Oman, dont on devrait peut-être vous parler un jour.
Peut-être, c'est vrai.
Et surtout, frontière avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, c'est là que ça devient plus important.
Crunchy, ouais.
Environ 29 millions d'habitants au Yémen. On est en conflit armé depuis plus de 6 ans, depuis fin 2014 à peu près. C'est en fait une guerre menée principalement par le gouvernement yéménite et ses alliés de la région contre des groupes rebelles, mais surtout les Houthis, groupe armé islamiste qui est soutenu par l'Iran, le grand ennemi de l'Arabie Saoudite. C'est un secret pour personne. La coalition qui, justement, mène l'offensive du gouvernement yéménite contre les Houthis, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, c'est elle vraiment qui mène le jeu, qui met les pions et qui finance, qui envoie ses... c'est elle qui lead les opérations. Donc, plusieurs opérations militaires, beaucoup de bombardements, des villes assiégées, des ports, des aéroports, des routes bloquées, détruites. Une des opérations militaires les plus meurtrières s'appelait Opération Restaurer l'Espoir. Et, ouais, c'est toujours des noms accouchés de, tu sais, qui, en tout cas.
Ben non, mais c'est pas, c'est qui fit pas avec les résultats.
Non, mais c'est ça, c'est comme du pas du blanchiment, là, mais
du greenwashing.
Du greenwashing, ouais, c'est ça, du peacewashing.
Oui, voilà.
Bon, cette opération-là, Restaurer l'Espoir, s'est échelonnée sur plusieurs années, puis elle n'est pas vraiment terminée, en fait. Il y a eu une énorme manifestation à Sanaa, la capitale du Yémen, en mars dernier, donc tout récemment, pour souligner les 6 ans de la guerre. Sanaa et sa région, ça c'est l'ouest du pays, sont toujours sous contrôle du groupe rebelle, les Houthis. Donc en gros, le quart ouest du pays sous contrôle Houthis et les 3/4 est contrôlés par le gouvernement / la coalition saoudienne. Pour ajouter une petite couche, ben, il y a quelques enclaves occupées par Al-Qaïda en plein milieu ouais, des territoires contrôlés par l'Arabie saoudite. Je sais pas si vous voyez, ce serait bien d'être à la télé, des fois, avoir des cartes, là, mais... OK, donc les Houthis sont un groupe armé, ben, horrible, là, faut le dire, c'est un groupe djihadiste, donc probablement qu'il faudrait le neutraliser, je pense que tout le monde est plutôt d'accord avec ça, mais les comportements voyous sont observés chez tous les acteurs impliqués, qui n'ont pas tous les mêmes moyens, donc on s'entend, l'Arabie saoudite, c'est un peu comme les moyens d'Israël face à ses soi-disant opposants, qui paye le prix? Ben, les civils, comme toujours. La crise au Yémen est considérée aujourd'hui comme la pire crise humanitaire au monde, pire que celle en Syrie ou au Soudan, et ça, c'est d'après tous les observateurs là, au commissariat, Amnesty, Human Rights Watch, Save the Children, MSF, name it. Tout le monde est unanime. On est vraiment devant une pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, à peu près. Pour affirmer que c'est la pire, ben, c'est purement ces statistiques. Donc, on s'entend que toutes les crises sont toutes aussi épouvantables les unes que les autres. Avant le début du conflit actuel, le Yémen était déjà considéré comme le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Et évidemment, ça a été exacerbé par non seulement cette guerre qui finit pas, mais aussi par la difficulté d'acheminer l'aide humanitaire. Je reviens tantôt, un genre de blocus. Par la COVID aussi, dont on n'a aucune idée des chiffres. Même l'OMS ne se risque pas. D'habitude, ils font quelques estimations. Là, ils disent on peut pas. Et aussi, la crise humanitaire du fait que l'économie s'est complètement écroulée. Les services de santé et les réserves alimentaires sont complètement anéantis. Donc, c'est le mot que j'ai lu dans plusieurs rapports. Donc, c'est rare qu'on entend ce mot-là. Quelques chiffres.
Oui, d'habitude, on va entendre fragiliser ou des choses comme ça.
Oui, précaire ou des choses comme ça. Mais là, c'est anéanti, autant pour l'économie. Il y a le taux de chômage dans l'économie formelle de 95% à peu près. Quelques chiffres, environ 250 000 personnes, dont le corps sont des femmes et des enfants, tuées directement des opérations armées, donc des tirs, des bombardements, donc des victimes directes du conflit. On aurait environ 5 millions de personnes blessées ou handicapées qui sont actuellement en situation d'abandon. Les gens meurent massivement de maladies traitables. On a depuis quelques années une épidémie massive de choléra qui est à peine prise en charge et qui se compte en centaines de milliers de personnes infectées, peut-être en millions. L'OMS se risque à dire que c'est peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions. On se retrouve avec 6 millions de personnes en situation de famine, mais on crée une famine à beaucoup plus grande échelle qui pourrait bientôt affecter une majorité des 29 millions de Yéménites. On a 4 millions de déplacés, on a 80 % de la population, soit 24 des 29 millions de Yéménites qui dépendent directement de l'aide humanitaire, aide qui arrive au compte-gouttes quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours. On parle même de famine planifiée en raison du blocus imposé par la coalition menée par Riyad, la coalition saoudienne, exactement. Donc, c'est vraiment ça qui préoccupe le plus actuellement, c'est le blocus quasi total, blocus maritime, aérien et terrestre imposé par l'Arabie saoudite. Pour l'ensemble du pays, et pas seulement pour la partie contrôlée par les rebelles, les Houthis, c'est ça. Blocus qui n'a pas nécessairement la bénédiction des alliés occidentaux, donc France, Canada, États-Unis, qui protestent un peu pour la forme, disons plutôt mollement jusqu'à maintenant, tous des pays qui considèrent encore l'Arabie saoudite comme une alliée de premier plan. Biden a été un peu plus ferme récemment. Il a annoncé en février qu'il retirait officiellement son soutien politique à la coalition menée par Riyad, que tout soutien logistique aussi serait retiré, ainsi que toute vente d'armes dans la région, sauf que des armes américaines ou autres, disons qu'il y en a déjà en masse dans la région. Il a aussi dit que les États-Unis continueraient de soutenir l'Arabie saoudite contre les agressions des Houthis. Ce qui nous mène un peu dans un cercle vicieux, ce qui vient, c'est un peu de la novlangue, il vient un peu annuler ces informations comme quoi il retirait son soutien. Donc, on est dans une impasse. Les Houthis tirent à l'occasion des missiles vers l'Arabie saoudite parce qu'ils refusent de lever le blocus. Et l'Arabie saoudite refuse de lever le blocus parce que parfois, il y a des tirs de mortiers ou de petits missiles artisanaux. Du côté d'Ottawa et ses 10 à 15 milliards de ventes annuelles d'armes à Riyad, on se fait plutôt discret ces temps-ci. Suite aux annonces de Biden en février, on aurait pu penser que Trudeau emboîterait le pas, du moins dans la forme, dans le discours. Mais bon, il s'est fait...
Même pas.
Il s'est fait questionner par des journalistes, par Jack Meeting en chambre. Et c'est un peu la même cassette qui est ressortie, que les contrats actuels avec Riyad, il y aurait des pénalités vraiment astronomiques à payer s'il fallait les annuler, que c'est des bonnes jobs en Ontario aussi.
Mais oui, va-t-on dire ça aux 27 millions de...
Non,
de
on va rester
de Yéménites.
On va rester à Ottawa, dire ça confortablement chez nous. Et il dit aussi que la CCC, la Corporation commerciale canadienne, fait très bien son travail pour encadrer les ventes d'armes à l'international. Mm. Donc voilà, crise humanitaire majeure prise un peu en étau dans un bourbier politique dont on ne voit pas l'issue.
Merci Simon, désolant, vraiment très désolant comme situation, mais c'est... Ça fait un bon tour, en tout cas, puis une analyse à quel point, effectivement, c'est vraiment la population qui, pour une fois, pour de vrai, là, prise en otage, là, c'est vraiment la bonne expression.
C'est pas galvaudé de dire ça non. Dans ce cas-là.
On va aller écouter deux, trois petites notes de musique et on revient avec Mathieu et son agenda antiraciste. Alors, Mathieu, tu nous proposes des événements organisés par des militants et des idéologues?
Oui, surtout du côté gauche de l'échiquier politique, comme disent certains journalistes. une manif, un rassemblement plutôt ce dimanche 9 mai, 14h, devant les bureaux de Justin Trudeau, sur la rue Crémazie. Donc, organisé par SSF dans le cadre de la journée d'action pan-canadienne pour un programme complet de résidence permanente pour tout le monde, organisé par Migrant Rights Network au Canada. Donc, le titre du rassemblement, c'est « Réunissons toutes les familles séparées ou menacées par les frontières, un statut pour tous et toutes ». C'est la fête des mères dimanche, donc famille, ça a l'air. Donc, on demande aux gens d'apporter une grande photo d'eux ou de leur famille et ou de leur maman pour faire un visuel intéressant. Donc, c'est dimanche le 9 mai à 14h, si ça vous dit. Sinon, un webinaire... qui s'appelle le mouvement BDS est-il illégal ou antisémite, démystifier les mythes courants, organisé par Canadiens pour la justice et paix au Moyen-Orient. Discussion avec Yavar Hamid, avocat spécialisé en droit de la personne à Toronto. Et lors de ce webinaire, on nous dit que nous nous pencherons sur les questions juridiques relatives au droit de boycotter Israël et nous vous donnerons des conseils pratiques sur la manière de répondre aux critiques. Donc, organisé par un groupe dont je parle souvent. Donc, ça, c'est le 11 mai à 20h en ligne. Le colonialisme médical, une série de conférences virtuelles organisées par Amnesty et la Ligue des droits et libertés du Québec. Donc, deux événements. Le premier, c'est le 12 mai à 18h. Donc, Samir Shaheen Hussein, pédiatre urgentiste et militaire, présentera son livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien, publié chez Lux Éditeur. Et il y documente les pratiques racistes et coloniales que le système médical impose aux enfants autochtones et à leurs familles, en abordant, entre autres, l'interdiction aux parents d'accompagner leurs enfants lors d'évacuations aéromédicales, les stérilisations forcées et la séparation des familles. C'est dans le cadre des audiences publiques dans le cadre des audiences publiques de l'enquête du bureau de la coroner sur le décès de Joyce Chacouane qui auront lieu du 10 au 27 mars prochain. Donc, on parle de médical autochtone, évidemment. Donc, premier événement, c'est ça, le 12 mai à 18h en ligne. Et il y en a un deuxième, le 2 juin à 18h. C'est une table ronde avec M. Shaheen Hussein, mais aussi avec cinq femmes autochtones de milieux différents qui partageront leurs perspectives sur le colonialisme médical. J'ai les noms, Wanda Gabriel, Alisha Tukapik, mais il n'y a pas d'organisme.
On sait pas, ouais,
de quelle organisation. Ils sont. Mais ça a l'air intéressant. Cinq femmes, donc le 2 juin à 18h en ligne, toujours dans le cadre du colonialisme médical. Sinon, ben un autre webinaire, on peut dire table ronde aussi. C'est le 18 mai à 18h, Personnes migrantes au Québec, vie et précarité, organisé par Amnesty et la CSN, dans le cadre de la campagne Essentielle pour la protection des droits des personnes migrantes par le biais de la régularisation des statuts. Donc, table ronde avec des personnes migrantes ayant vécu l'expérience ou actuellement ou dans le passé de la précarité et des intervenantes qui les soutiennent. Entre autres, une travailleuse dans le secteur privé de l'entretien, il y a Mamadou Konaté, dont on a parlé souvent, qui est un ancien préposé en CHSLD, Caroline Blais de Médecins du Monde, Viviana Medina du CTI et France André, comité d'action des personnes sans statut, conférence animée par Jill Henley, donc 18 mai à 18h en ligne. Et je vais terminer, Marie-Ève, avec petit truc culturel.
Ben oui.
Festival Accès Asie, 26e édition, existe depuis 1995. Il fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à travers une grande variété de disciplines, danse, théâtre, vidéo, cinéma.
J'imagine que ça va être surtout en ligne.
C'est en ligne, évidemment. Le mois de mai, c'est le mois du patrimoine asiatique au Canada, donc c'est pour ça que ça a lieu au mois de mai. Je vous parle d'un balado. Moi, c'est le côté plus social, politique que j'ai trouvé, c'était ça, qui s'appelle Asiate imparfaite, un balado portant sur l'expérience des Canadiens, de Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique, offrant des rencontres et des discussions passionnantes, orchestrées par Laura Nem et Emmanuel Esler. On parle que les gens vont aborder la complexité d'être Canadien d'origine asiatique, les moments qui ont un impact sur leur vie, comment ils se sont construits à travers ceux-ci. Donc, on parle de mélange d'expériences difficiles et d'anecdotes amusantes. Mais j'en ai écouté des petits bouts, puis c'est assez intéressant. On parle de racisme, évidemment, d'intégration et tout ça. Le balado est disponible tout le mois de mai sur le site web du Festival Accès Asie. C'est en anglais et en français, de selon les épisodes. Et c'est accèsasie.com. Mais si vous allez voir aussi des spectacles, il y a des expositions aussi en vrai. D'ailleurs, il y en a une à Frontenac, entre autres, mais sur Frontenac. Parce que l'Asie aussi, c'est l'Iran, c'est l'Inde, c'est très large,
oui, c'est
évidemment.
Large,
c'est
l'Asie mineure.
Exactement, le Japon, tout ça. Fait que jusqu'au 31 mai, le Festival Accès Asie pour notre petite note culturelle aujourd'hui, Marie-Ève.
Ben, merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Que ça passe vite, une heure en votre charmante compagnie, Mathieu Simon.
Ben oui, Marie-Ève, c'était super agréable.
Notre émission tire déjà sa fin. Je vous remercie, vous deux, pour vos recherches, vos efforts de vulgarisation et votre regard acéré sur l'actualité.
Je dirais même plus militant et idéologue.
Merci, Marie-Ève.
Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices. Je vous rappelle que si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi le faire en balado ou en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi suivre sur notre page
FB
et nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca.
On a un TikTok aussi?
Non. C'est refusé.
En terminant, on pouvait pas passer sous silence quand même la face à claque de la semaine, hein, et j'ai nommé le nouveau chef du Parti conservateur du Québec, la coquille vile de libertarienne, Éric Duhaime.
Bravo.
Et oui, l'ex-animateur de Radio Poubelle a raflé 95% des votes.
Un score stalinien, hein?
contre son seul rival, d'ailleurs, Daniel Brisson. Brisson, qui, pauvre lui, essuie un deuxième échec dans une course à la chefferie.
Perdre contre Duhaime, me semble, c'est pas très beau dans un CV. Là,
non. Alors, celui qui fait de l'extrémisme sanitaire de François Legault son cheval de bataille a eu ces mots émouvants et inspirants à l'annonce de sa victoire. Oh. J'ai jamais rêvé. J'ai jamais imaginé, j'ai même jamais pensé qu'un jour j'allais devenir chef d'un parti politique, mais aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que je suis la bonne personne, au bon endroit, au bon message, au bon moment.
Oh.
Inspirant, n'est-ce pas?
Oui, madame. Peut-être qu'il va finalement prendre la place de Régis Labeaume à la mairie de Québec, hein? On sait jamais.
Non, je pense que Régis Labeaume avait quand même pas mal plus de classe.
Non. OK, oublie ça.
Quoi?
La bombe se représente pas. Je dis qu'Éric Duhaime pourrait se représenter. Oui.
Ah oui, prendre la place, oui, ouais, mais. Oui.
Puis Duhaime pourrait devenir woke comme la bombe l'est devenue aussi.
La place est libre.
C'est ce qu'on verra.
Vas-y, Mathieu.
Sur ce, on va se quitter en musique avec le désormais légendaire groupe post-rock montréalais Godspeed You Black Emperor. Bon, la pièce Fleuve, hein, qui dure 20 quelques minutes, possède un titre à l'avenant. Un military alphabet, entre parenthèses, five eyes all blind, / Job's lament, / first of the last glaciers, / where we break, how we shine, rockets for Mary. Tout cela se retrouve sur leur tout récent album paru le 2 avril dernier et qui s'intitule Godspeed at State's Hand. Et qui s'accompagne de ces sages paroles, petite traduction libre de mon cru ici. Vidons les prisons, prenons le pouvoir des mains de la police et donnons-le aux quartiers qu'elle terrorise. Mettons fin aux guerres de toujours et à toute forme d'impérialisme. Taxons les riches jusqu'à ce qu'ils s'appauvrissent.
Dixit et Francoeur.
Oui, c'est cela.
Donc, sur Constellation Records, toujours.
Sur Constellation, oui. Et apparemment, peut-être une tournée qui s'en vient, là. Donc.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.